Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Connaissez-vous les pères du désert? Ces premiers pères de l'Église qui vécurent essentiellement en Égypte, en Palestine, en Syrie et en Russie. Depuis quelques mois, nous vous proposons de partager avec nous leurs lettres, adressées le plus souvent à leurs moines et à leurs contemporains. Ces lettres ont gardé encore aujourd'hui toute leur vitalité et leur chaleur. Poursuivons cette grande œuvre avec les conférences de Jean Cassien, plus particulièrement orientées sur le combat spirituel entre les passions et les vertus. Celui-ci naquit en City en 365. Poursuivons aujourd'hui avec Jean Cassien et ses entretiens avec les moines. Il nous parle aujourd'hui d'abord de comment guérir de la colère et ensuite il évoquera avec nous comment reconnaître que notre cœur est purifié. Aux marques signalées précédemment, quelqu'un a reconnu qu'il est en butte au mouvement tumultueux de l'impatience et de la colère, qu'il s'exerce constamment par des pensées capables de les exciter. Il s'imaginera qu'il est victime de toutes sortes d'injures et de dommages et s'entraînera à souffrir dans une parfaite humilité. Tout ce que peut lui imposer la méchanceté des hommes. Il se représentera fréquemment les choses les plus dures et les plus intolérables. Et pénétré des sentiments de la plus profonde contrition, il occupera sa pensée de la grande douceur qu'il devrait montrer en de telles conjonctures. Regardant aux souffrances des saints ou à celles du Seigneur lui-même, il conviendra que tous les propos injurieux, tous les genres même de châtiments, sont au-dessous de ce qu'ils méritent et se prépara à supporter toute douleur. Quelques jours, une invitation l'appellera à l'assemblée des frères. Ce qui ne peut manquer ou manquera bien rarement d'arriver aux solitaires, même les plus stricts. S'il s'aperçoit que son âme s'est émue dans cette circonstance et pour des riens, qu'il se fasse le censeur impitoyable de ses mouvements secrets. La pénitence, maintenant. Elle consiste à ne plus commettre dorénavant les péchés dont nous avons dû repentir ou dont notre conscience éprouve le remords. D'autre part, le signe de la satisfaction et du pardon, c'est d'avoir banni de notre cœur toute affection à ses péchés, que chacun connaisse, en effet, qu'il n'est pas encore affranchi de ses péchés anciens, aussi longtemps que l'image des fautes commises, ou d'autres semblables, vient se jouer devant ses regards, et que, je ne dis pas la délectation, mais seulement le souvenir, en infeste les retraites de son âme. Ainsi, celui que le désir de faire satisfaction pour ses péchés tient sans cesse en éveil, saura son acquittement et son pardon à ce signe que leur séduction ni leur image même ne l'effleureront plus. Nous devons nous exciter à une louable componction, plutôt par l'appétit de la vertu et le désir du royaume des cieux, que par le souvenir funeste des vices. Il est fatal en effet que l'on soit étouffé par des exhalaisons pestilentielles d'un cloaque aussi longtemps que l'on se tient au-dessus et qu'on en remue la boue. Nous l'avons dit maintes fois déjà, nous saurons enfin avoir satisfait pour nos péchés à ce signe que les mouvements et affections qui nous les avaient fait commettre auront disparu de notre cœur. Aussi bien, personne ne doit se flatter d'obtenir ce résultat avant d'avoir retranché, dans toute la ferveur de son esprit, ce qui fut la cause ou l'occasion de ses chutes. Par exemple, c'est par une dangereuse familiarité avec les personnes du sexe qu'il est tombé dans la fornication ou l'adultère, qu'il évite avec le plus grand soin jusqu'à leur aspect. Ou bien il s'est laissé emporter à quelque excès de vin ou de bonne chère, qu'il réprime par une rigoureuse austérité les séductions du manger et la crapule. Peut-être il a été induit au parjure, au vol ou à l'homicide par le désir et la passion de l'argent. Il faut écarter les objets qui, en allumant son avarice, l'ont attiré dans le piège. Enfin, c'est le vice de la superbe qui le pousse à la colère. Il arrachera la racine même de l'orgueil par une profonde vertu d'humilité. Et ainsi, pour chaque vice, afin de pouvoir l'éteindre, on doit retrancher tout d'abord la cause et l'occasion qui en furent le principe ou la fin.
Thank you.
comment le démon nous attaque dans notre corps, dans notre cœur et dans notre âme. Nos pères nous ont appris qu'en cas d'attaque concernant la chair, il y a trois causes qui font brèche par des écarts intempestifs à la mesure du délai fixé. Ou bien c'est l'excès d'une nourriture superflue qui fait pléthore, ou c'est le défaut de vigilance qui lui laisse libre cours, ou ce sont les embûches de l'ennemi qui la provoquent par des illusions. Pourquoi ne devons-nous laisser subsister aucun des vices? Parce que ces mouvements tumultueux occupent notre esprit, sans doute. Mais pour ce motif aussi que, non content d'exercer sa tyrannie indépendamment des autres, il introduit toute leur bande plus cruelle que lui et dévaste en la livrant à mille tyrans l'âme qui lui est sujette. Si donc il faut vaincre la gourmandise, ce n'est pas à cause d'elle seulement et de peur qu'elle ne nous corrompe par le poids des aliments. Ce n'est même pas uniquement par crainte qu'elle n'allume en nous les feux de la concupiscence charnelle. Mais c'est encore afin qu'elle ne nous mette pas en esclavage de la colère, de la fureur, de la tristesse et des autres vices, que l'on nous serve en effet le boire et le manger en moindre quantité, ou trop tard, ou sans les soins convenables. Si la tyrannie de la gourmandise nous domine, nous serons fatalement piqués aussi des aiguillons de la colère. D'autre part, impossible de se délecter dans les saveurs voluptueuses et d'échapper en même temps à la passion de l'argent, reine des apprêts superflus et dispendieux où se plaît la délicatesse. Amour de l'argent, vaine gloire, superbe, toute la multitude des vices se tiennent par une indivisible société. L'un d'eux commence à prendre force en nous. Il est seul ? N'importe, il saura ménager la croissance des autres. Aussi bien l'Écriture proclame ouvertement que les justes et les saints ne sont pas exempts de fautes. Lorsqu'elle dit « le juste tombe sept fois le jour et se relève », qu'est-ce en effet que tomber si ce n'est pas péché ? Néanmoins, tout en disant qu'il tombe sept fois, elle ne laisse pas de l'appeler juste. Des chutes de pure fragilité ne portent point de tort à sa justice. C'est qu'il y a un abîme entre la chute du saint et celle du pécheur. Autre chose est de commettre un péché mortel. Autre chose, de se laisser surprendre par une pensée qui n'est pourtant point sans péché. De choper par ignorance, par oubli, par des paroles inutiles, si vite échappées. D'éprouver une ombre d'hésitation dans le regard intérieur de la foi, de s'épanouir sous la subtile caresse de la vanité, de retomber pour un moment des plus hautes cimes de la perfection par le poids de la nature. Ce sont là les sept espèces de chutes qui se rencontrent dans la vie des saints, sans qu'ils cessent pour autant d'être justes. Par ailleurs, si légères qu'elles semblent, et de si peu de conséquences, elles font pourtant que l'on n'est pas sans péché. Les saints ont réellement sujet de faire pénitence chaque jour, d'implorer leur pardon et de prier sans cesse pour leurs péchés en disant « Remettez-nous nos dettes ». L'apôtre Paul a reconnu que l'homme, empêché par le bouillonnement de ses pensées, demeure impuissant à pénétrer jusque dans l'abîme inestimable de la pureté. Et longtemps ballotté lui-même, comme sur l'infini des mers, il a dit « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je hais. » Puis « Mais si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et encore « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon esprit et qui me rend captif, sous la loi du péché qui est dans mes membres. Il a donc vu le fond de sa propre fragilité, de la fragilité humaine, et saisi d'effroi devant cet incommensurable abîme, il cherche un refuge au port assuré du secours divin. Désespérant, si je puis ainsi dire, de sa frêle embarcation, qu'il voit toujours près de sombrer, sous le fardeau de la mortalité, il supplie celui à qui rien n'est impossible de le sauver du naufrage, et pousse ce cri pathétique. « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et la délivrance, qu'il n'attendait plus de la faiblesse de la nature, il se la promet aussitôt de la bonté divine. Il poursuit plein de confiance. La grâce de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur.
Das procissões a passar, da se verem voz saudosa, na guitarra a solução.
L'œil purifié peut voir ce qui traîne au fond de son cœur. Nous l'avouons, notre esprit volage ne peut manquer de s'écarter sur tout objet frivole et superflu. Et voilà pourquoi nous confessons en toute vérité que nous ne sommes point sans péché. Si attentif que l'on soit à garder son cœur, on ne le gardera jamais, selon le désir de la partie spirituelle, à raison de la contradiction qu'il rencontre dans la condition de la chair. Aussi bien, plus l'âme progresse, plus grande est la pureté de contemplation où elle est parvenue, plus aussi elle se voit impure, comme dans le miroir de sa propre pureté. Car tandis que l'esprit se tend vers des intuitions plus sublimes, et considère au loin de plus grandes choses que celles qu'il fait, nécessairement, il méprise le degré où il se trouve comme inférieur et vil. L'œil saint distingue plus de choses. Une vie sans reproche fait que l'on se reprend avec plus de douleur. L'amendement des mœurs et le zèle vigilant de la vertu multiplient gémissements et soupirs. Impossible à quiconque, en effet, de se satisfaire avec le degré où il est parvenu. Plus son âme est pure, plus il se voit souillé et trouve en soi des raisons de s'humilier plutôt que de s'élever. Plus il est rapide dans son vol vers les cimes, plus il voit grandir devant soi l'espace à parcourir. Aussi l'apôtre privilégie entre tous celui que Jésus aimait. Celui-là, en reposant sur la poitrine de son maître, a tiré, pour ainsi dire, du cœur divin cette parole « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Et si, quand nous disons que nous sommes sans péché, nous n'avons pas en nous la vérité, c'est-à-dire le Christ, que gagnons-nous par cette profession, sinon que des pécheurs, nous nous faisons voir comme criminels et impies. Enfin, si nous avons à cœur d'approfondir la question et de savoir plus exactement si l'impeccabilité est possible à la nature humaine, qui nous en instruira mieux que ceux qui ont crucifié leur chair avec ses vices et ses convoitises, et pour qui le monde est crucifié véritablement? Or, après avoir déraciné tous les vices de leur cœur, bien plus, alors qu'ils s'efforcent de bannir jusqu'à la pensée et au souvenir du péché, ils confessent néanmoins tous les jours, avec loyauté, qu'ils ne peuvent rester sans la tâche du péché, l'espace d'une heure seulement. Nous ne devons pas toutefois nous suspendre nous-mêmes de la communion du Seigneur parce que nous avons conscience d'être pécheurs. Au contraire, nous irons la recevoir avec une avidité plus grande afin d'y trouver la santé de l'âme et la pureté de l'esprit. Mais dans les sentiments de l'humilité et de la foi, nous jugeant indignes d'une telle grâce et cherchant plutôt le remède à nos blessures. Si nous attendions d'être dignes, nous ne ferions pas même la communion une fois l'an. Cette pratique de la communion annuelle est celle de plusieurs qui demeurent dans les monastères. Ils se forgent une telle idée de la dignité, de la sainteté, de la grandeur des divins mystères, qu'il ne faut s'en approcher à leur sens que si l'on est saint et sans tache, et non pas plutôt afin de le devenir. Ils pensent éviter toute présomption orgueilleuse. En réalité, celle où ils tombent est plus grande. Car le jour du mois où ils communient, ils se jugent dignes de la communion. Combien est-il plus raisonnable de recevoir les sacrés mystères chaque dimanche, comme le remède à nos maladies? Humbles de cœur, croyants et confessants, que nous ne saurions mériter cette grâce, au lieu de nous enfler de cette vaine persuasion qu'au moins nous en serons dignes au bout de l'an.
Sicuni, wow.
Notre prochain rendez-vous, nous terminerons avec Jean Cassien. Il nous dira particulièrement que finalement il n'y a qu'une seule source à tous les vices, mais que ces vices attaquent notre âme dans ses trois parties, soit dans sa partie raisonnable, soit dans sa partie irascible, soit dans sa partie concupiscible. Nous développerons ces trois points.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.